France Musique.
You got it.
Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät.
Réécrire un opéra, c'est le thème d'À pleine voix aujourd'hui autour de La double coquette de Gérard Pesson et de Pierre Alféri, d'après la comédie lyrique d'Antoine d'Auvergne sur un livret de Charles-Simon Favard, La coquette trompée. Ma musique postule, dans sa limite, la perte, la disparition, a écrit Gérard Pesson, dont vous venez d'écouter le premier des cinq poèmes de Sandro Penna pour baryton, clarinette, cor, violon et violoncelle avec Paul-Alexandre Dubois et l'ensemble Fa, dirigé par Dominique Mi. On a souvent souligné, dans l'œuvre de Pesson, cette écriture de la ténuité, de l'extrême faiblesse de la nuance, qui dans la vocalité peut dès lors venir déconstruire certains codes de la voix lyrique ultra projetée, pour aller chercher peut-être dans la voix une autre qualité de silence, peut-être, ou à tout le moins de non-intentionnalité vocale, dans un espace plus blanc de la voix, comme dans ses poèmes de Sandro Penna. Nous sommes allés rencontrer le compositeur chez lui la semaine dernière pour parler voix ensemble.
Moi, je me souviens, je faisais allusion à les poèmes de Sandro Penna qu'on a enregistrés début des années 90, et je me souviens qu'on avait du mal à trouver la voix qui convenait, et quand je le faisais travailler à des hommes plutôt, mais aussi à des femmes, je leur demandais d'essayer de trouver une voix blanche, un peu, une voix sans tout cet appareil lyrique qu'on leur a appris, de vibrato, de choses surtimbrées. Et c'était pas facile de détimbrer, en fait. C'était très difficile, beaucoup plus que pour les instrumentistes, ça, pour le coup. Parce qu'on leur a appris à construire un corps, à construire une respiration, et puis avec leur propre sensation interne du son, s'ils n'ont plus ce soutien de ce qu'ils appellent la vie du son, qui est le vibrato. Et c'est vrai que parfois un son non vibré dans certaines voix peut sembler peu sûr, voire peu juste, hein, dès que le vibrato va les aider. Mais on sent ça parfois chez certains violonistes ou certains violoncellistes. Donc c'est cette espèce de désapprentissage ou de...
De pas de côté.
Voilà, de pas de côté. Enfin, comme disait Fourcade, pour être nu, il faut du matériel. Enfin, c'est-à-dire, il fallait qu'ils apprennent ça, le jeu de mots. Hein. La musique ténue et ténue dans la musique ténue. C'est, tu es tout nu. Et ça, c'était très difficile, d'avoir cette espèce de blancheur, mais en même temps de justesse. Donc, je leur disais peut-être, écoutez des voix de variété, de gens dont mon père disait qu'ils ne savent pas chanter. Ben, alors lui, il parlait toujours de Françoise Hardy, hein, c'est-à-dire ça lui semblait vraiment la personne qui n'avait pas de voix. Oui, mais en même temps, ce filet de voix avait, elle chante encore, je crois, une couleur inimitable. Hein. Bon, après, je crois qu'elle n'était pas libre pour enregistrer mes peines, hein, Françoise Hardy, mais... Voilà, c'est la vocalité, c'est tout un territoire. Et ce problème qu'on rencontre avec certains chanteurs et certaines chanteuses, c'est aussi un rapport très particulier au professeur. Il y a une espèce d'affectivité. Et alors, je ne dis pas que tous les professeurs de chant sont des gourous, mais ils construisent l'instrument de leurs étudiants à travers une certaine image de soi, d'une certaine affectivité, qu'on le veuille ou non, quand même. Et ça, c'est plus difficile à mettre du sfumato là-dessus, parce que quelqu'un qui est très habile avec son violoncelle et sa clarinette, il pourra détimbrer, il va chercher, puis il trouvera. Pour la voix, c'est un chemin personnel qui peut sembler des fois un reniement. Il se dit, oh, si mon professeur m'entendait, il se dit ça. Un trompettiste peut le dire aussi, mais un chanteur en sera un peu comme une profanation, un peu, c'est-à-dire le... Ce qui est saint et sacré, on le déchire. Enfin, de même que beaucoup de compositeurs comme moi ont aimé l'envers du geste instrumental, eh bien, on peut aimer l'envers de la voix. Alors, l'envers de la voix, ça, voilà, peut tout exprimer, on peut chanter de toutes les manières. Il y a effectivement une assez grande liberté. Pour autant, je trouve que c'est très intéressant de chercher ça en restant dans la vocalité, c'est-à-dire en ne pensant pas. Parce que ça me semble un truisme un peu vieilli, de penser que c'est en faisant autre chose que de chanter qu'on va trouver un nouveau chant. Ça me semble trop fastoche, ça. C'est au contraire dans la vocalité qu'on peut réinventer la vocalité. Pas forcément déconstruire, non, pas ça, mais la réinventer. C'est quelque chose de très beau.
La chanteuse des rues, première des 5 chansons de Gérard Pesson sur des poèmes de Marie Redonnet, par la mezzo-soprano Viola de Calgosi, Mes chers et l'ensemble Recherche. Vous écoutez donc France Musique, c'est à pleine voix, plongée dans le travail d'écriture pour la voix, en compagnie du compositeur Gérard Pesson, qui a écrit un opéra contemporain dans les pas, les interstices d'une œuvre du passé, La coquette trompée, comédie lyrique du XVIIIe siècle d'Antoine d'Auvergne sur un livret de Charles Simon Favard. Dans La Coquette trompée d'Antoine d'Auvergne et de Charles Simon Favard, une femme s'aperçoit que son fiancé la trompe, offrant à une autre le gage d'amour qu'elle lui a elle-même donné. Pour récupérer cet amant volage, elle imagine de séduire sa rivale en se transformant en homme. Tout se terminera bien par une fête. Les intrigues amoureuses façon 18e siècle, c'est ça, à la fois libertin, mais où les conventions sociales sont respectées. Avec La Double Coquette de Gérard Pesson et de Pierre Alféri, en revanche, les conventions éclatent et une nouvelle carte du tendre se dessine à l'ère des réseaux sociaux de Facebook. Gérard Pesson.
L'idée toute première, c'était vraiment un long prologue, une sorte de monodrame avec le personnage principal de Florise, hein, donc celle qui va s'apercevoir qu'elle est trompée, puis se travestir pour faire un pied de nez à son copain et feindre de conquérir la jeune femme. Donc l'idée, c'était de réfléchir au genre, justement, au changement de genre, au travestissement, qu'est-ce que c'est le... Moi, ça ne m'évoquait rien de spécial musicalement. L'idée de départ, c'était ça. Et d'emblée, j'avais dit, faire vraiment un monodrame, c'est-à-dire une chose de 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes avec une femme, une introspection. C'est tellement pas ce que je sais faire. Hein. Du Sapin saurait faire ça magnifiquement. Moi, je ne sais pas faire ça du tout, du tout. Donc, je leur ai dit non, moi, je crois, franchement, je préférerais qu'il y ait les trois voix d'emblée, alors même s'il faut voir le statut qu'auraient les deux autres personnages, donc de Clarisse et d'Amon. On était quand même partis là-dessus, avec Alféri. Et puis, peu à peu, s'est imposée l'idée, suggérée par Héloïse, de mélanger la musique de d'Auvergne. Alors, j'ai dit attention, parce que là, on va être dans des choses de citation, c'est complètement un autre projet. Et puis après, on a pris la décision, on va en fait intervenir dans l'œuvre. On va garder les deux idées. C'est-à-dire, il y aura un prologue, mais qui ne fera pas 20 minutes, mais 9. Il y a effectivement 9 minutes de prologue où il y a juste Florise. Les personnages apparaissent parce que les voix, donc c'est sur Facebook qu'elle voit qu'elle est trompée, donc les selfies, tout ça. Donc ça, on entend leur voix de loin comme ça, mais ils apparaissent plutôt à travers l'écran, disons. Hein. Ils ne sont pas en direct, c'est seulement après qu'ils apparaissent. Voilà, on s'est dit à ce moment-là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est quelque chose de très difficile à réussir, c'est très délicat, c'est de faire que les jonctions, j'ai dit ça à Alféri, il faut que la manière dont on intervient dans l'œuvre de d'Auvergne soit à chaque fois différente. Une fois, ça va être un récitatif qui va être coupé, une fois, ça va être une chose instrumentale à laquelle on va mettre des paroles, une fois, ça va être l'inverse, une chose avec des paroles qu'on va changer en instrument, parfois ça va être une instrumentation, parfois seulement une harmonisation. Enfin, à chaque fois, la manière d'avancer sera différente.
Clic et reclic.
extrait du prologue ajouté à l'intrigue amoureuse de la coquette trompée d'Antoine d'Auvergne, cette comédie lyrique du XVIIIe siècle dans laquelle s'est donc infiltré Gérard Pesson, aidé par un complice, le poète et écrivain Pierre Alféri, soit au total 32 additions qui sont venues s'ajouter à l'ouvrage original et l'ont considérablement transformé. Pierre Alféri.
Le prologue devait être assez autonome par rapport à la pièce. Il allait de soi, finalement, qu'il ne se situait pas forcément dans le cadre historique de l'action telle qu'elle était à l'origine. Alors, une fois parti comme ça, moi, déjà, dès le prologue, j'avais imaginé des télécommunications, etc. Naturellement, finalement, quand on a décidé d'intervenir dans l'intrigue même, d'insérer des choses et puis de détourner l'ensemble de l'opéra et presque d'en doubler la durée, il était naturel de continuer sur cette voie, c'est-à-dire de s'approprier finalement un peu sans vergogne cette histoire, d'autant qu'elle est très légère, qu'il s'agit de libertinage et que l'univers, disons, de la frivolité, des rivalités, des petits secrets, etc., c'est pas quelque chose qu'il est difficile d'imaginer à toute époque. Hein. Ça joue un peu toujours sur les mêmes quiproquos, etc.
Mais est-ce que vous allez plus loin que ce marivaudage? Est-ce que vous caractérisez autrement vos personnages? Est-ce qu'ils prennent une épaisseur? Est-ce que vous avez l'impression de leur avoir donné une autre identité ou quelque chose avec une chair un peu plus
oui
forte?
Et non. Oui et non. Ça reste des marionnettes un petit peu, parce que c'est quand même une farce, c'est bref, c'est des jeux de rôle, le costume est important. Donc il n'y a pas de psychologie véritablement. Ou alors il y a une psychologie amoureuse, mais très universelle. Enfin. J'ai pas essayé de les caractériser vraiment comme des contemporains. Il m'a juste amusé d'imaginer que les outils contemporains aient pu fonctionner finalement dans un univers de libertinage assez proche de celui d'origine du XVIIIe siècle, c'est-à-dire on échange des missives, on espionne les communications, les lettres, etc. C'est pas très différent, hein, même si les supports sont différents. On voit bien comment on peut faire aujourd'hui des histoires d'amour compliquées, à quiproquo, etc., qui se passent entièrement sur un écran. Il y en a eu des courts films comme ça qui fonctionnent très bien parce que c'est le principe du roman épistolaire modifié. Alors là, les échanges de mots finalement sont cantonnés au tout début. Ensuite, ce sont des situations de dialogue, de rencontre. Tout ça n'emmenait pas avec lui un univers très lourd. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai pris au sérieux ces personnages comme des êtres vivants vraiment incarnés. Ce sont des personnages de comédie, a priori des stéréotypes, mais justement qui ont une mobilité de masque et de transformation plus grande que dans la vie finalement.
Thank you.
L'ensemble instrumental de France, dirigé par Jean-Pierre Vallèze, dans cet enregistrement de La Coquette trompée d'Antoine d'Auvergne, extrait de la scène 2, où Florise, ici Isabelle Garcizan, déguisée en homme et se faisant appeler Dariman, entreprend de séduire la coquette Clarisse, interprétée par Michel Pena, que courtise son amant volage Damon. Nous sommes ici dans la version originale de d'Auvergne, dont nous parle à présent Gérard Pesson.
C'est une magnifique musique, très très bien faite, assez nouvelle à sa manière, parce qu'elle apportait quelque chose de pré-romantique déjà, une manière dans les trémolos, quelque chose qui était déjà de l'école de Mannheim. Enfin, d'ailleurs, l'ouvrage commence par une sinfonia en trois parties, ce qui était une chose complètement nouvelle. Hein. Ce n'était pas une ouverture vif l'en vif, c'est vraiment une sinfonia en trois mouvements. Donc c'est quelque chose, un esprit complètement nouveau. Donc l'idée, c'était plutôt qu'il fallait servir la vivacité du propos, puisque ces six opéras bouffent, c'est pas l'opéra comique, la définition d'opéra comique vient un petit peu après, mais dans l'histoire, mais c'est vraiment le début, disons, de cette démarche. Et aussi bien, ces ouvrages venaient de la culture de la foire, hein, la foire Saint-Germain-Saint-Laurent, voilà, tout ça, et très tôt. Et je citais souvent le fait que quand un opéra avait du succès, on le voyait parce qu'il était parodié à la fois. Quand il n'avait aucun succès, on ne le parodiait pas. Alors parodie, comme je disais tout à l'heure, effectivement, on parodie, ça veut dire au contraire, un peu comme moi, j'ai fait les filtrages d'une ballade de Brahms ou d'une symphonie de Bruckner ou de l'Adagietto de Mahler, c'est vraiment par déférence, par respect, c'est pas du tout une démarche de dérision, pas du tout, c'est complètement l'inverse. Donc avec d'Auvergne, il y a ça. Il se trouve qu'ils m'ont demandé de faire cette musique, il se trouve, le hasard faisait que je connaissais la musique de d'Auvergne, que j'aimais beaucoup. Le hasard fait aussi que depuis quelques années, on en parle un petit peu. Il y a eu la magnifique ouvrage de Benoît de Radvicky, qui est vraiment le spécialiste de d'Auvergne. Et après, évidemment, peut-être un peu comme j'avais fait une sorte de transcription, mais très éloignée de La Rolle en Italie de Berlioz. Ça a été joué à diverses reprises. Et c'est parti à la Côte Saint-André. Donc je me dis, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, parce que des Berlioziens peuvent trouver ça comme un sacrilège. Et en fait, non. Si on comprend qu'à l'intérieur, il y a un travail d'amour de ce qui a été fait, à la fois du passé, mais du présent dans le passé, parce qu'il y a cette espèce de vitalité moderne dans Berlioz, comme on la trouve dans d'Auvergne, alors à ce moment-là, il n'y a pas de malentendu, c'est-à-dire tout est violemment contemporain, on se met au même diapason, si on peut dire. Et si on pose la question, mais est-on fondé à rentrer comme ça dans une œuvre et à la changer ? Alors, Benoît de Radvicky, qui est quand même le spécialiste, m'enlevait tout scrupule en disant mais qu'est-ce que faisaient les gens de cette époque ? Ils faisaient bien pis. Ils démembraient leurs propres œuvres. On mettait un bout d'une œuvre d'un tel dans l'autre œuvre d'un tel. D'Auvergne avait fait une chose, mais qui est sidérante. Il mettait au goût du jour, il relookait, on peut dire, Lully. C'est-à-dire Lully, ça semblait quand même très, 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 très vieux à l'époque de Louis XV. Ça semblait très loin. C'était le vieux roi, il était mort depuis 70 ans, eh bien, il faisait du relooking.
Je dois reconnaître que son apparence paraît avoir un prix épuisé. Thank you.
qui m'a frappé quand j'ai lu l'opéra, c'est que la situation de départ
Pierre Alféri
avait quelque chose d'un archétype, disons, hein, d'infidélité, puis essayer de recoller l'idée de remariage, finalement, hein, de refaire le couple qui est défait. Mais le dénouement d'origine est abracadabrant, littéralement. C'est-à-dire que la réussite, le dénouement de l'intrigue amoureuse arrive comme un coup de théâtre inexpliqué et totalement abracadabrant. Et donc, j'ai essayé de faire dévier l'intrigue très progressivement, vraiment par de toutes petites modifications de ton, d'adresse, et puis des ajouts qui poussaient, disons, l'histoire amoureuse entre les deux femmes vers quelque chose de plus réel, de plus profond que ça n'était dans l'histoire, pour arriver à justifier au dernier moment des réattributions de répliques et un changement complètement des rôles, puisque dans la version qu'on a terminée avec Gérard, les deux femmes restent ensemble et partent et abandonnent l'homme, enfin, l'une et l'autre finalement. Mais je crois que ça passe dramatiquement très bien, parce que d'une certaine façon, moi j'ai senti que l'intrigue préparait ça, d'une certaine façon voulait ça, et puis l'évitait au dernier moment pour des raisons de convenance. C'est-à-dire que le jeu sur les changements de sexe est la partie la plus amusante, la plus gaie, la plus fraîche finalement de cette histoire. C'est le moment de l'enamoration entre les deux femmes. Et puis bon, parce que évidemment la fin doit restaurer l'ordre établi, il y a cette espèce de coup de théâtre bizarre qui contredit aussi d'une certaine façon la fête finale, parce que dans la fête finale, même dans la version d'origine, il y a une espèce de joie distribuée généralement également, peu importe les rôles, finalement tout le monde se réjouit, même la maîtresse est conduite, etc. Donc on est tous réconciliés. C'était des pièces qui probablement, même je crois, assez certainement débouchaient sur des ballets, donc sur une fête. D'ailleurs, il est annoncé tout au long de l'histoire qu'il va y avoir une fête. Et le côté, comment dire, œcuménique et égalitaire de la fête me paraissait aller bien finalement avec cette fin, même si elle n'était pas du tout orthodoxe, quoi.
Et presque aussi fort.
Extrait de La double coquette de Gérard Pesson et Pierre Alféri, enregistré avant les représentations scéniques par l'ensemble Amaryllis avec Isabelle Poulnard dans le rôle de Floris, Maëlys de Villoutres dans le rôle de Clarisse et Robert Gatchel dans le rôle de Damon, scène où vous avez pu écouter entre deux airs originaux du compositeur d'Auvergne, deux airs où Damon, jaloux de voir Clarisse se dérober à ses charmes puisqu'elle a été séduite par Dariman qui en fait est Floris déguisé en homme, et bien entre ces deux airs originaux, il y a les trois additifs de Gérard Pesson et Pierre Alféri, aggravation en mineur, forlane de la haine réciproque et fugato de la zizanie irénique. Toujours le sens subtil des titres de Gérard Pesson, qui évoque justement à présent cette écriture à quatre mains avec Alféri, dont il a aimé suivre les didascalies musicales.
Au début, je pense, dans une première version qu'il m'avait donnée, il avait mis une notion d'expression qui était un petit peu musicale, et je lui ai dit, mais à ce moment-là, ne te censure pas, lui-même est un peu musicien, il est... met ça par exemple comme une chanson ou comme ceci. Et donc il a mis des didascalies musicales qui m'ont aidé. Parce qu'après, il fallait. On a fait un travail un peu concomitant où moi je mettais dans une liste comme ça tous les numéros, parce que c'est un opéra numéro, hein. Il y a comme dans les opéras une alternance de récitatif et d'air. Et donc, dit, bon, là on va intervenir là, ici on pourrait intervenir là. Donc il fallait prendre conscience de ce qui se passait musicalement et dans le livret de Favart pour voir où est-ce qu'il allait intervenir. Mais au bout du compte, c'était le caractère du texte. Enfin, tout interagissait beaucoup, quoi. J'aimais bien ce fait qu'on soit à quatre, au fond. Il y avait Favart, d'Auvergne, Alféri et moi, ça pourrait faire une chanson. Et ça interagissait beaucoup, beaucoup.
Et j'étais surpris du sérieux avec lequel il a pris tout ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que littéralement, il est allé plus loin dans les directions que j'indiquais, même quand c'était parodique, avec des citations anachroniques par exemple.
Quel type de citation alors vous avez rédigé ?
Oh, je ne me souviens plus maintenant dans le détail, mais disons que c'était des citations d'humeur plutôt, hein, de Stimmung, quoi. Je qualifiais un petit peu les répliques et les tirades. Et puis, quelquefois, j'imaginais une forme musicale vague du type danse, des indications de rapidité ou de gaieté ou de lenteur ou de tristesse, ou des choses comme ça.
Donc, plus du caractère, alors.
Voilà, du caractère, c'est tout à fait le mot. Oui, oui. Et puis, quelquefois, il a même pris dans le texte des choses qui n'étaient pas au départ musicales dans mon esprit, mais qui pouvaient interpréter comme ça. C'est-à-dire quand il entendait un jeu de mots, une allusion à quelque chose de contemporain, par exemple, il en a fait quelquefois une traduction musicale, jusqu'à citer des choses de rap ou de musique populaire.
L'amour comble mon espérance, le ciel, je prie.
Cette scène entre Damon et Clarisse, où Damon fait la cour à Clarisse, et puis donc ce coup de théâtre là où Florise se dévoile, et au lieu du dénouement prévu dans l'œuvre originale d'Antoine d'Auvergne, La coquette trompée, eh bien les deux femmes se plaisent et partent ensemble dans cette version donc de La double coquette de Gérard Pesson et Pierre Alféri, le travestissement qui nourrit de nombreuses intrigues d'opéra se double donc ici du trouble des genres. J'ai justement posé la question à Gérard Pesson, je voulais savoir s'il avait été habité par des références musicales faisant appel au travestissement quand il a composé ses additifs à La coquette trompée pour La double coquette.
Non, franchement non. L'idée de départ qui était la réflexion sur le travestissement, sur le genre, moi j'avoue, j'ai pas réfléchi à cette question. Le travestissement, c'est un truc vieux comme le monde. Dans l'opéra, il y en a partout. Bon, évidemment, je connais tous les...
Le travestissement pour séduire.
Ah oui, enfin, bon, j'avais pas d'idée de ça. Il suffisait de se laisser porter par la dramaturgie. Il n'y avait pas besoin de chercher autre chose, même si, évidemment, on connaît nos kéroubides ou nos chevaliers à la rose et tout ça. Mais on n'avait pas besoin d'aller chercher là-dedans. Une certaine justesse dramaturgique suffisait à trouver la chose. Après, il se trouve qu'il y a des citations dans la musique, mais c'est des clins d'œil. Vous voyez, il y a un moment... tout petit passage de Carmen, hein, vous voyez, alors c'est à l'envers, mais on le reconnaît très bien, voilà, que je mets.
Et pourquoi
Oui, parce que d'Auvergne ne citait pas beaucoup Bizet, mais...
Non, c'est...
Bah parce que c'est, voilà, l'amour est enfant de bohème, c'est dans un air sur l'amour, bah, donc c'est une espèce d'article de loi, quand même, c'est aussi une espèce de poncif de l'art vocal, cet air-là. Il y a évidemment une citation de Rameau, qui est le grand autre d'Auvergne. Quand il est question d'harmonie à un moment, bah évidemment, il y a un air magnifique de Dardanus. qui est cité. Alors, il y a aussi une introspection comme ça, un peu sombre, d'un seul coup, de Floris. Alors, je l'ai rendu plus sombre en changeant l'harmonie. Et il y a une citation absolument manifeste de l'Abschied du Chant de la Terre de Mahler, par exemple, qui n'a absolument rien à voir à cette... Mais ça se fond. On entend avec ces instruments baroques, on ne reconnaît pas... Enfin, on reconnaît Mahler si on connaît cette œuvre, mais on n'a pas l'impression que c'est du mal, vous voyez. Donc c'est toutes ces choses d'inclusion, d'entrelacement, de maillage, de tissage, qui font qu'on n'est jamais tout à fait sûr d'avoir entendu ce qu'on a entendu.
Et dans ce mouvement du trouble, ce mouvement de l'œuvre originale, de l'œuvre transformée, la citation vient encore ajouter un autre niveau.
C'est-à-dire, oui, c'est des choses au carré. On ne sait pas de quoi la citation était.
Et la citation.
Et on se cite soi-même citant. Donc, c'est un jeu de degrés qui peut amener à un sourire musical. Vous voyez, pas vraiment un rire, mais on sourit soit parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris, soit justement parce qu'on a trouvé la solution, comme dans un mot fléché. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est un jeu. Et l'histoire est là. Cette histoire, c'est un jeu. C'est un petit jeu à trois, et toi tu vas là, maman tu vas être une femme, tu vas être un homme, puis l'homme rebondit. Ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette chose-là, c'est que l'homme a vraiment le mauvais rôle. C'est quand même pas toujours le cas, hein, c'est quand même un peu dans Così fan tutte. Comme je suis très féministe, du coup, ça me plaisait bien. Il a vraiment complètement le rôle du dindon, et voilà, ça c'est assez jouissif.
Et ça, je pense, je trouve qu'il a vraiment très 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 bien réussi ça. Les transitions sont tout aussi subtiles, progressives et quelquefois insensibles dans la musique que dans le texte. Et très difficile de dire à quel moment exactement on est sorti de l'original, bien qu'évidemment il y a des moments où on sait qu'on se dit « Ah bah oui, là c'est pas possible, c'est forcément contemporain », mais la transition elle-même est souvent quasi imperceptible et subtile.
Ce qui fonctionne super bien, c'est la découverte de l'infidélité par Facebook. Parce que pour avoir des témoignages de jeunes adolescents ou jeunes adolescentes, ça arrive très souvent.
Oui, oui.
Et c'est d'une violence vraiment abominable de découvrir par Facebook l'infidélité. Mmh. Donc on a l'impression de quelque chose d'extrêmement plausible, en fait.
Oui, oui. Et moi, quand j'écrivais ça, c'était au tout début. Avant même qu'on ait vraiment formé l'idée générale de ce qu'on ferait, pour le prologue, j'étais pas sûr que ça passerait. J'avoue, je me disais peut-être qu'ils diront non quand même, parce qu'il y avait l'évocation d'une tablette, de quelqu'un qui fait défiler les choses sur une tablette. Moi, je voyais très bien le geste et l'objet, mais je me suis dit peut-être que dans le milieu de l'opéra, c'est pas possible de faire ça. Et puis non, finalement, ça leur a convenu et c'est vrai que ça marche, parce que c'est une expérience qu'on fait ou qu'on connaît, bien sûr, aujourd'hui, mais aussi parce que c'est pas une expérience fondamentalement différente de, je sais pas, ouvrir un tiroir et trouver un mot d'amour, ou fouiller une poche et trouver je sais pas quoi. Hein. Oui. Donc ça évoque tout de suite quelque chose de très concret.
Quelque chose de l'ordre de la virtualité qui vient en résonance après du travestissement. Quelque chose qui fonctionne aussi peut-être par ces jeux de bascule. Quoi. Tout d'un coup, on est dans le virtuel. Et puis quand les trois personnages se re-rencontrent, c'est ça en fait.
Oui,
hein,
oui, mais l'univers...
On est encore dans le, dans le virtuel. Dans le
oui, oui, tout à fait. Mais l'univers du 18e, en tout cas tel qu'il est représenté dans ce genre de pièce, c'est-à-dire avec des échanges de gages, de rubans, de bagues, les promesses de balles, etc., c'est aussi très virtuel finalement. On évoque l'amour physique, sexuel, sans jamais le montrer ou vraiment le faire, enfin, sur scène. Et on est dans des jeux de symboles, d'échanges de petits objets symboliques. Tout ça est très léger, très immatériel. Toute l'intrigue tourne en fait autour de ce gage d'amour qui a été donné, qui a disparu, qui doit revenir, qui est un objet qu'on ne voit jamais, et de promesses d'une fête qui, elle aussi, reste complètement... à l'état d'évocation et de possible. On ne la voit pas.
Peu d'action, beaucoup de sentiments.
Oui, et beaucoup d'échanges symboliques autour de signifiants, finalement, de petites choses assez immatérielles.
C'est un présent ou un passé qui diffuse dans le présent, un présent qui diffuse dans le passé de façon assez naturelle.
Enfin, ouais, sans doute, oui. Oui, et puis j'ai l'impression que aujourd'hui, avec à la fois quand même une relative libération sexuelle pour les jeunes gens, l'accélération des communications, les échanges, comment dire, les rencontres plus ou moins codées par des réseaux sociaux, etc., on est dans un univers de libertinage qui n'est pas très éloigné de celui des courtisans, en tout cas tels qu'ils sont représentés dans les textes et les pièces du 18e. Indépendamment de ce qu'ils font vraiment, ils étaient dans une espèce de prolifération de représentations vraies, fausses, de masques, qui n'est pas forcément incompatible, je dirais, avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Ville finale de cette double coquette de Gérard Pesson et Pierre Alféri, d'après La coquette trompée d'Antoine d'Auvergne et de Charles-Simon Favard, une œuvre qui referme cette À pleine voix, une émission de Karine Lebaye réalisée par Christine Amado avec la collaboration artistique de Françoise Monteil, mise en onde aujourd'hui Manu Couturier.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.